Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dialane.
Bonjour, bienvenue sur Radio B.
C'est ce que je pensais. C'est un bon rhume. Tu peux descendre. Un peu de sirop, un petit médicament et ça va passer tout seul.
Un extrait de Petit ours brun sur lequel on va revenir avec notre invité du jour.
Bonjour Toubib.
Bonjour.
Alors Toubib, on ne vous présente plus. Aujourd'hui, tout le monde vous connaît. Vous êtes médecin généraliste spécialisé dans les urgences pédiatriques. Vous travaillez d'ailleurs en milieu hospitalier. Et vous êtes surtout l'auteur de la page Facebook Toubib or not Toubib et du manuel de survie en milieu pédiatrique Urgence or not Urgence. Une nouvelle édition vient de paraître. C'est un guide toujours très utile et que j'aime conseiller à mon entourage. Il permet aussi d'échanger avec mon fiston de 6 ans. Et il a voulu vous poser cette question.
Bonjour docteur, je voudrais savoir pourquoi on tombe malade.
Et moi je rajouterais, en tant que parent, pourquoi nos enfants sont-ils autant malades depuis la rentrée?
Alors pourquoi on tombe malade? Parce que sinon, en fait, on ne s'amuserait pas dans la vie. Ce serait un long fleuve tranquille. C'est quand même bien d'avoir un enfant malade, de faire un rhume, une angine, une gastro à la maison. Ça fait s'amuser tout le monde, parents compris, n'est-ce pas? Non. Alors, pourquoi on tombe malade? Parce qu'en fait, il existe des vilaines petites bestioles qui s'appellent des bactéries, qui s'appellent des virus, qui s'appellent aussi des parasites ou des champignons parfois, qui peuvent nous refiler, en fait, nous rendre malades. Et c'est elles qui vont causer les maladies. Alors, pourquoi les enfants n'arrêtent pas d'être malades, notamment en hiver? C'est pour une raison, il y a deux raisons. La première, c'est parce que quand les enfants vont revenir à l'école, ils reviennent en collectivité. Et donc, la collectivité, la proximité, on adore ça. Les enfants peuvent se partager tous leurs postillons, tout ce qu'ils ont sur les mains, avec les autres, d'ailleurs par surface interposée également. Et ça va favoriser ce qu'on appelle le brassage des germes dont on parlait, donc les bactéries, les virus surtout. Et en plus, après, il y a des épidémies saisonnières. Donc, on a en fin d'année, avec l'abaissement des températures, certains virus se conservent mieux, comme le VRS, donc le virus de la bronchiolite. Et on va avoir du coup une recrudescence, un pic.
Alors, quand notre enfant est malade, une des premières sources d'inquiétude, c'est la fièvre. D'ailleurs, la crèche, la nounou, l'école nous appellent vite en panique. Mais du coup, est-ce qu'il faut paniquer?
La réponse, c'est non. Et c'est un truc qu'il faudrait vraiment, vraiment arriver à faire passer comme message principal aux parents. Parce que même pour eux, hein, sans parler du fait de connaître ou non ça, c'est quand même question d'être plus relax, d'être plus serein avec son enfant. Parce qu'on se fait toute une montagne de la fièvre, parce que dans la vision générale, dans la culture générale, la fièvre, c'est quelque chose de simple, de bruyant, et donc du coup, ça fait peur. Alors qu'en fait, chez l'enfant, si votre enfant il a plus de 3 mois, la fièvre, ce n'est pas ce qui doit faire peur, parce que la fièvre, c'est une façon pour votre corps d'augmenter la température pour se débarrasser des mauvais germes. Le problème là-dedans, c'est qu'on associe à notre époque le chiffre de la température avec la gravité. On m'a tellement bassiné sur la fièvre, dès qu'il y a 39, 40, c'est grave et tout, alors que nous, soignants, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est, et votre enfant, il la supporte comment? Alors oui, pendant le pic de la fièvre, même nous adultes, hein, quand on fait 39-40, on n'est pas en train de jouer une partie de poker, c'est pas possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est après avoir donné un antipyrétique, donc Doliprane, Dafalgan, Paracetamol, je ne sais pas, donner ce que vous voulez, j'ai aucune action. Il faut voir comment l'enfant se comporte par rapport à la fièvre 30 minutes après. S'il a un comportement qui est plutôt normal, il ne va pas péter le feu, mais il doit toujours interagir avec vous. S'il respire normalement, qu'il n'est pas en train de tirer, etc., d'être essoufflé, et s'il est d'une couleur normale, donc qu'il n'ait pas les lèvres bleues, les extrémités bleues. S'il tolère bien, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien de se précipiter le premier jour de fièvre chez un enfant en l'absence de ses symptômes, parce que vraiment, qu'on soit aux urgences, qu'on soit en cabinet, qu'on soit ailleurs, on ne fera rien. Doliprane à la maison et c'est tout. On consulte si son enfant il a des pathologies particulières, s'il a moins de 3 mois, s'il tolère mal, ou voilà, si on est à plusieurs jours, on va dire plus de 3 jours de fièvre en continu, même si c'est bien supporté, on peut consulter le médecin traitant, c'est pas grave, on peut le faire. Et après, si l'enfant a plus de 5 jours de fièvre, on consulte aux urgences parce que normalement, en moyenne, les épisodes viraux là, dont on parlait au départ, ça dure 3 à 5 jours.
Un autre constat que peuvent faire les parents, c'est que bien souvent, et de plus en plus aujourd'hui, on repart avec une ordonnance pas bien remplie. Dans un extrait de Petit Ours Brun, la docteure, pour le rhume de Petit Ours Brun, elle lui prescrit du sirop. Alors c'est quoi ce nouveau délire des médecins qui donnent plus de médicaments?
Ah bah, tout se perd, hein, ma bonne dame, hein. C'est terrible, hein. En fait, c'est l'inverse. C'est que ça fait des années qu'on a pris des mauvaises habitudes, qu'on a pris, surtout en France, parce que c'est vraiment un problème franco-français, de prescrire à tour de bras n'importe quoi. C'est toujours en fait le principe de donner quelque chose pour faire voir qu'on fait quelque chose. Même quand on fait quelque chose, bah, ça sert à rien, hein. Parce que il y a ce vieil adage qui dit un rhume, c'est avec antibiotiques, c'est 7 jours, sans antibiotiques, c'est une semaine. Voilà. En fait, c'est exactement la même chose. Ce que vous allez traiter chez l'enfant, c'est la fièvre principalement. Le nez, bah, vous le traitez par un truc très simple, c'est le lavage à la pipette ou à la seringue, comme vous voulez, mais vous le faites bien. Et bah, c'est tout. Le reste, ça se justifie dans des cas très précis. Les antibiotiques, c'est beaucoup plus précis que le fait que là. Là, ça arrose de partout. Je sais pas, je pense qu'il y a certains praticiens qui devraient se mettre à jour, ou bien, je sais pas, le trou de la sécu, ça devrait les exciter, j'en sais rien du tout. Mais c'est vraiment contre-productif parce que ça fait des antibiorésistances. Ça nous empêche, dans notre travail à nous, s'il y a une fièvre prolongée, de faire des prélèvements qui vont être rapidement réalisables. Et puis, à la fin, en fait, ça donne des mauvaises habitudes aux gens. Ça donne des mauvaises habitudes et ça fausse la relation. Et ça fausse après même la propre pratique de la personne. Donc, et on a même chose pour les sirops contre la toux. Ça sert à rien, un sirop contre la toux. Une toux, la plupart du temps, ça provient du fait que vous êtes irrité dans l'arrière-gorge. On l'a tous vécu quand on est adulte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas, à moins de vous enlever l'arrière-gorge, et ça, je ne vous le conseille pas, vous n'aurez rien qui va changer. Vous pouvez adoucir, donc du miel après l'âge de 1 an. Donc c'est un remède très naturel finalement, ou ce qui passe mieux pour l'enfant. Est-ce que c'est du chaud qui va l'apaiser? Est-ce que c'est du froid? Ça dépend de l'enfant. La toux, c'est un réflexe pour dégager les poumons. Si vous arrêtez, vous empêchez l'enfant de dégager ses poumons, il s'étouffe. Donc vous choisissez sirop contre la toux ou enfant vivant. Voilà. On a quand même vécu des milliers d'années et on a survécu en tant qu'espèce sans mettre une ordonnance de 10 médicaments à chaque fois. Alors bien sûr, la fièvre, c'est beaucoup plus commode quand on a du paracétamol parce que quand on monte en température, bah oui, en effet, ça supporte mal. Mais la toux, tous les délires en fait de surprescription, le maxillase, machin, le maxillase, c'est l'hélicidine, tout ça, c'est de la bave d'escargot en vrai, ça ne sert à rien. Donc en gros, ce qui se passe, c'est pas que les jeunes là, ces jeunes là qui savent pas prescrire, qui sont encore beaucoup trop formatés par les facultés de médecine, ils font n'importe quoi. C'est que les vieux, ils doivent se mettre à jour et que maintenant, en fait, on fait la médecine. J'ai l'habitude de dire aux gens quand ils me disent souvent, ah non non, moi je suis pas médicament. Bah, je dis moi non plus. En fait, le médicament, c'est quand il faut. Donc il faut juste savoir le doser quand il faut.
L'intérêt de votre livre, c'est de donner des éléments concrets aux parents sur comment gérer des questionnements du quotidien. On se rend compte qu'on peut parfois s'en sortir sans paniquer et sans passer par le médecin. Ce serait quoi l'attitude clé à avoir justement pour pas paniquer face à son enfant malade?
Vraiment, s'il y a un truc que j'ai appris aux urgences pédiatriques, et un truc au départ, je ne le croyais pas, hein, soyons clairs, je ne le croyais pas quand le professeur qui m'avait dit ça m'a dit, tu verras, un enfant malade, un enfant qui va mal, tu le sais dans les quelques secondes où tu rentres dans la pièce. Et ça, c'est aussi une source de confusion pour les parents, notamment je vous disais, pour la fièvre, le CCR, le comportement, c'est très mal compris le comportement parce que un enfant qui va mal, il est amorphe. Mais quand je dis amorphe, c'est pas juste il est fatigué, il rechigne à faire des trucs, il est grognon. Non, c'est un enfant qui est sur son lit, qui ne vous parle plus, qui n'arrive plus à parler, qui ne vous regarde plus, qui ne bouge plus. Le conseil vraiment principal, c'est ça, c'est regarder avant tout votre enfant. Il ne sert jamais, je pense que dans aucune situation, il ne sert à rien de paniquer. Ça ne va rien apporter. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, soyons clairs. Hein. Timmy vient de se prendre une tasse d'eau chaude, il est en train de hurler comme un putois dans la maison. Oui, on a tendance à lever les mains au ciel et puis à s'agiter. Mais ça ne sert à rien de s'agiter. Il faut essayer de regarder l'enfant, de voir ce qui se passe, de voir ce qui ne va pas. Et de se dire, alors bon voilà, donc là il est tombé, donc bah, on va regarder la tête. Alors là il a la fièvre, on va regarder est-ce qu'il respire bien, est-ce qu'il il me parle, est-ce qu'il interagit. Il faut se donner des trucs clés. Ça, c'est pas spontané hein, en vrai, c'est pas spontané, c'est pas un truc, c'est un truc qui s'apprend et c'est un long apprentissage. Regardez votre enfant. Et je pense que c'est un bon conseil de départ. Ça peut permettre de voir, de jauger l'intensité de ce qu'il a.
Selon votre expérience, si on permettait aux parents d'avoir finalement une meilleure connaissance sur les pathologies pédiatriques du quotidien, on éviterait probablement des consultations aux urgences.
En fait, on est en plein là dans la polémique sur le système de santé, son effondrement. Et en fait, une des clés pour moi, de toute façon, on ne rattrapera jamais le nombre de médecins qui manquent. Ça, les politiques peuvent venir tout ce qu'ils veulent, c'est n'importe quoi. Par contre, il y a un truc qu'on n'a jamais fait qui est fait cruellement défaut. On n'a jamais offert une éducation de base aux adultes, aux jeunes, aux parents. Pour la santé de leur enfant, ou en général même sa santé à soi. Je trouve ça complètement ahurissant que le nombre de mamans ou de papas que je peux voir aux urgences affolés pour la fièvre de leur enfant, que c'est leur premier, ils chauffent depuis 2 heures et qui ne savent pas quoi faire. Il y a un problème. Pourquoi ils ne le savent pas? Pourquoi voilà, on ne leur a pas dit, on ne leur a pas expliqué. Alors voilà, je pense qu'il faut investir dans une éducation à la santé parce que ça va permettre aux gens de savoir mieux juger d'une urgence. Je ne dis pas qu'ils vont être médecins, il hein, ne faut pas déconner, mais il y a quand même aussi des proportions à garder entre devenir totalement médecin et être conscient des choses de base. On doit tous être conscient des choses de base dans la médecine parce que c'est notre propre santé, la santé de nos gamins. Et ça permet aussi de diminuer ce que j'appelle, ce qu'on connaît tous dans la relation médecin-malade, l'asymétrie quand on se trouve devant un médecin qui nous explique des choses et que nous, on ne connaît rien. Parce que du coup, ça l'impose en tout-puissant. Et je pense qu'il faut avoir des éléments de compréhension et on ne pourra jamais rééquilibrer. Je ne pense même pas que c'est souhaitable, mais il faut s'approcher le plus possible pour avoir au moins un respect de ce que la personne va comprendre. La pédagogie, c'est un truc pivot en fait de la santé et qu'on a en France, je ne sais pas, on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose pour y pallier.
Moi, j'ai surtout envie de vous dire merci aujourd'hui parce que tout ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure résonne en moi. C'est exactement le discours que j'ai à longueur de temps aussi avec mes patients. Et à la lecture de votre super livre, je me suis rendu compte qu'on avait exactement le même parcours de médecin généraliste, ayant fait une thèse de pédiatrie et ayant le diplôme d'urgence pédiatrique. Voilà sûrement pourquoi tout ce que vous dites me parle énormément. J'ai l'impression qu'un autre être humain, médecin, parle enfin le même langage que moi. Votre super bouquin, un travail à la fois sérieux et drôle, me fera aussi une très bonne idée cadeau, un très bon conseil d'achat pour mes amis, patients, futurs parents à prescrire sur ordonnance, indéniablement. On a tous eu l'idée de faire des fiches pour les parents, pour démystifier la fièvre ou donner des bons conseils, car la pédiatrie, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est avant tout des conseils, un apprentissage bien plus que des médicaments. Alors merci aussi pour ça. Merci d'avoir mis en application cette belle idée. Je dis toujours aux parents qu'ils sont les premiers médecins de leur enfant et que ce sont eux qui les connaissent le mieux. Je leur conseille de les regarder, de les observer tranquillement. Et je vois que je ne suis pas la seule à tenir ce discours et ça fait du bien. Alors mille fois merci. Ça m'a fait du bien de découvrir votre travail et de retrouver ici l'essence des consultations de pédiatrie, les explications, la réassurance avec les enfants et avec les parents, les blagues pour diminuer leur niveau d'anxiété et les images pour faire comprendre. Je suis une vraie convaincue des bienfaits de prendre le temps d'expliquer les démarches de soins, les surveillances, pour rendre notre patient ou le parent compétent en ce qui concerne sa santé. L'observance n'en est qu'améliorée si on comprend ce qu'on fait. Et je vois que dans votre démarche, vous approuvez cette méthode. Encore une fois, merci beaucoup pour ça. J'ai envie de vous demander d'où vous est venue votre envie d'être docteur?
En fait, vous risquez d'être un peu déçu, hein. Je suis désolé. En fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après le lycée. Et en fait, un jour, mon meilleur ami qui avait envie de faire médecine s'était inscrit à la fac et il m'a dit, bah, comme l'inscription est libre, pourquoi pas? Pourquoi tu ne t'y inscrirais pas? On ne sait jamais si aux écoles d'ingénierie où tu as postulé, tu n'es pas pris. Il s'avérait que j'en étais pris dans une, mais qui n'est pas ma préférée. Donc, j'ai finalement switché vers la médecine. Ça a été dur la première année parce qu'on est embarqué dans un monde où dont on ne sait rien. C'est la faculté, personne ne nous oblige à nous lever. Voilà. Et la deuxième année, j'ai décidé que j'avais envie d'y arriver, ne serait-ce que pour le challenge du concours. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu tout simplement que bah, ça me plaisait. Et puis, ça m'a de plus en plus plu. Et c'est en faisant finalement que je me suis dit. J'ai trouvé une discipline que j'aime bien. Alors, je ne dirais pas qu'il y a certaines disciplines parfaites, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aussi déplu, justement, dans le côté humain et l'absence parfois de prise en compte du paradigme humain. Mais ce n'était pas forcément une vocation de quand j'étais petit, c'est un truc qui m'est venu. C'est un truc qui fait que. On se dit vraiment, c'est pas un sujet médical, mais on se dit vraiment qu'il y a un gros problème de demander à un jeune qui a 16, 17 ans, qui a à peine construit sa vie, de décider de ce qu'il va faire dans sa life, alors que bah, il commence, il sait pas en fait. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, notamment maintenant avec le retour. Je ne sais même pas si j'aurais fait médecine.
Toubib, je rappelle que le manuel de survie en milieu pédiatrique est à retrouver partout, amis parents, il est essentiel. Et puis d'autres projets sont en cours, un nouveau livre sur les fausses croyances en médecine et des vidéos pédagogiques en lien avec une illustratrice. Merci Toubib.
Et merci à vous.
C'est la fin de notre émission, on se retrouve le mois prochain.
D'ici là, prenez soin de vous.
Quoi de neuf, Doc? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.